temps de l'univers, je me laisse émerveiller par Dieu, par sa majesté. Quand je regarde ce qu'il a créé et qui pousse à côté de mes yeux, je peux me laisser émerveiller avec ce que Dieu a fait. C'est juste quelques feuilles, c'est tout simple. Vous avez passé devant je ne sais pas combien de feuilles comme ça ce matin en venant ici. Et puis même en les regardant, elles sont toutes différentes. On voit les premières couleurs d'automne qui sont là. Si je les retourne, je vois des nervures, une finesse, une précision, c'est incroyable. Et si je me souvenais de mes cours de biologie du collège, je pourrais vous expliquer la photosynthèse, comment ça absorbe le carbone et encore plus. Puis on se dit, mais c'est incroyable, tout ce que Dieu a créé. Et comment, en voyant simplement ces quelques feuilles, je peux dire, merci Seigneur, tu es bon et tu es grand. Et on sait que les arbres participent à la création et à ce dont nous avons besoin pour vivre. Nous sommes dans un mois de la création. Les églises catholiques et protestantes prennent en général le mois de septembre comme le mois de la création. Nous n'avons pas forcément le même rythme, mais ce mois-ci, enfin ces deux dimanches, aujourd'hui et dimanche prochain, on va s'arrêter un peu plus sur des textes en lien avec la création. Quel est mon rapport? Quel est mon lien à Dieu et à la création? Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, il est important que je me soucie du monde créé par Dieu, du monde donné par Dieu depuis si longtemps? D'un côté, on en fait partie, ça semble évident. Puis malheureusement, on sait que notre lien à la création est compliqué. Ce matin, j'ai ouvert l'app de la RTS et les cinq premiers sujets, sur les cinq premiers sujets, trois étaient un questionnement ou une difficulté par rapport à la création. Un ouragan ou une tempête au nord de l'Alaska qui détruit des maisons. Encore un article sur la fonte des glaciers. Et un article qui remet en question le rôle des influenceurs qui poussent les gens à consommer tellement de produits et faire tellement de gaspillage. Donc trois articles en lien avec notre manière d'aborder et de vivre la création, ou ce qui se passe, disons. Et puis il y en avait d'autres. Donc c'est... il y a 15 ans, je pouvais dire, il n'y a pas un mois sans qu'on ait des articles sur le problème avec la création. Maintenant, c'est en tout cas pas une semaine, parfois pas un jour. Alors qu'est-ce que je fais, moi, assis sur ma chaise ici le dimanche matin, en tant que chrétien, fils de Dieu, aimé de Dieu, comment est-ce que je processe tout cela? Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Prendre quelques points qui nous aident à réfléchir pour ne pas sombrer dans la culpabilité, mais pour être chrétien dans ce monde, fils de Dieu, et se soucier de la création en tant que chrétien, et pas simplement en tant que personne qui est sensible à tout ce qui se passe et de voir un certain nombre de dégâts. C'est bien d'être sensible, et j'espère qu'on l'est tous de plus en plus, mais en même temps, en tant que chrétien, je crois que nous avons un rôle important à jouer, parce que l'Évangile est pour le salut de la création aussi. Peter Harris, qui est le fondateur d'Arocha, qui a déjà eu l'occasion d'être ici quelques fois, dans un de ses articles, il dit ceci. L'Évangile se préoccupe de la restauration de trois domaines au niveau des relations. Donc, principalement, l'Évangile apporte la paix entre les personnes et leur Dieu au travers de Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur, notre Sauveur. Deuxièmement, l'Évangile restaure, rétablit les relations entre les personnes par Christ, qui brise les murs d'incompréhension et d'hostilité entre nous. Et finalement, l'Évangile rend possible une relation renouvelée entre les personnes et la création de Dieu. Et ces trois choses sont importantes. La relation entre Dieu et nous, nous sommes sauvés par Christ. La relation entre nous, afin que nous ne soyons pas cachés derrière des murs, mais en communion les uns avec les autres. Et la relation avec la création. Alors souvent, on parle des deux premiers et un peu moins du troisième. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur le troisième, ce lien à la création, et comment, par l'Évangile, Dieu le restaure. Et il y a une attente que la création soit de nouveau dans un état paradisiaque. Et en me focalisant là-dessus aujourd'hui, je n'oublie pas les deux premiers, évidemment. Les deux textes bibliques de base que je veux prendre ce matin, ils sont dans Genèse 1 et Genèse 2. Un verset dans le premier récit de la création, un deuxième verset dans le deuxième récit de la création. Écoutez bien, ils seront affichés plus tard, mais écoutez maintenant. Genèse 1, 28 dit ceci. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. » Dieu les bénit, donc il bénit l'homme et la femme qu'il vient de créer. Et il dit au verset 31, juste après, « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. » Oui, les autres, les premiers versets, c'est bon, et puis dans le verset 31, c'est très bon. Dans le deuxième récit de la création, Genèse 2, 15, il est écrit ceci, « L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » On va prendre ces deux textes à un moment donné et voir comment ils nous donnent un rapport équilibré par rapport à la création. Alors, pour comprendre notre lien à la création, j'aimerais poser simplement six bases bibliques ou théologiques. Et la première, elle coule de source, mais c'est important de le dire, Dieu aime toute la création. Dieu aime toute la création. Vous lisez Genèse 1, Dieu a tout créé. Et à chaque journée, il dit, c'est bon. C'est une évidence dans le texte de Genèse 1, mais dans bien d'autres textes de la Bible. Et Jésus lui-même prendra plein ou fera plein de références à la création alors qu'il enseigne ou qu'il parle avec ses disciples. Dieu aime toute la création et il la déclare bonne. Un peu plus loin dans la Genèse, avec l'histoire de Noé, une fois que Noé et toute sa famille et tous les animaux sont sortis de l'arche, dans Genèse 9, Dieu établit avec Noé et toutes les créatures vivantes une alliance. Et c'est intéressant d'entendre que Dieu ne fait pas une alliance juste avec Noé et sa famille, mais il fait une alliance avec Noé et avec toutes les créatures vivantes. Dieu dit, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, ils peupleront la terre. » Et ça, c'est répété 6 fois dans ce texte. Et je crois que c'est important de réaliser que Dieu aime sa création. Bien sûr, ce n'est pas le même type d'alliance entre l'être humain et les animaux, mais Dieu aime la création et il veut soutenir la terre pour que cette création puisse vivre. Et l'extinction des espèces provoquée par les êtres humains est donc quelque chose de sérieux et de grave du point de vue de Dieu. Dieu lui-même, dans sa création, Dieu lui-même s'est incarné dans sa création par Jésus-Christ. Et ça, c'est aussi important. Il n'a pas mis la terre à quelque part, mais même il vient et il envoie son Fils qui s'incarne et qui prend forme humaine. J'y reviendrai encore tout à l'heure. Deuxième point, la création révèle Dieu. Est-ce que j'ai besoin de dire beaucoup plus que cette image ? Si vous la regardez attentivement. Ce Martin Pêcheur est extraordinaire. Vous voyez ces belles couleurs. Il y a toute une fragilité et en même temps quelque chose d'extraordinaire qui se passe avec cet oiseau lorsqu'il plonge pour attraper des poissons. Il est important de souligner que la création révèle Dieu. Nous n'adorons jamais la création, mais elle dirige notre regard vers Dieu. Et ça, c'est très différent. Plein de textes dans la Bible parlent ou nous entraînent à la louange et à l'adoration. Si je lis le psaume 96 au verset 11, il est dit « Que le ciel soit en joie, que la terre exulte, que les mers retentissent et tout ce qui l'habite, que la campagne et tout ce qui s'y trouve exultent d'allégresse. » Parfois la campagne fait autant de bruit, autant de louange que ce que nous avons fait ce matin. Que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Est-ce que vous avez déjà entendu les arbres pousser des cris de joie ?
Si vous ne dites pas oui, c'est que vous avez besoin d'aller vous promener en forêt cet après-midi, ou demain, ou après-demain. Et lorsqu'on est à l'écoute, on voit, on ressent, on entend. Et c'était la manière du psalmiste de décrire son admiration de la création et la louange qui revient à Dieu. Et au début de l'Épître aux Romains, Paul écrit dans le Nouveau Testament, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Troisième point, l'être humain est une partie inséparable de la création de Dieu. Là, de nouveau, ça semble évident, mais c'est important de le noter. C'est comme ça que Dieu a désiré, que nous fassions partie de la création. Il nous a créés à son image. Nous ne sommes pas créés en dehors du monde physique, nous en faisons partie. Et même, après notre passage sur la terre, lorsque nous serons ressuscités avec Dieu, nous aurons un nouveau corps. Et ce nouveau corps a un lien avec le monde physique. Parce que l'on voit Jésus dans son nouveau corps, il marchait sur la terre, il a mangé, il a fait des choses que nous, on ne peut pas faire, mais il est dans un corps. Et aujourd'hui encore, Jésus dans le ciel a ce corps. Donc il y a un lien avec le monde physique, ce n'est pas juste étranger ou appelé à disparaître. Quatrième point, l'être humain a un rôle particulier et une responsabilité au sein de la création. Et c'est là que ça devient important. Adam et Ève ont reçu une bénédiction spéciale et une responsabilité du fait que, comme Dieu dit, faisons les hommes, les êtres humains, pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bêtes, sur toute la terre. Donc Dieu a donné à l'homme, à l'être humain, une responsabilité. Qu'on l'accepte ou pas, cette responsabilité-là, nous sommes comme des intendants de la création. C'est un rôle spécial qui nous est donné, qui n'a pas été donné à d'autres dans la création, mais à l'être humain. Et en exerçant ce mandat d'intendance, nous reflétons la présence de Dieu sur la terre. Ceci de manière individuelle, de manière collective, nous gérons la création, on va dire, pour Dieu. Et on pourrait faire allusion ou référence à plusieurs textes dans l'Ancien Testament où Dieu donne des commandements à son peuple ou des instructions à son peuple pour bien gérer la création. Prendre soin de la terre, semer, et puis une année sur sept, ne pas semer pour que la terre reste en jachère et continue de produire ce qui est nécessaire les années suivantes. Il y a plein de textes qui montrent le soin que Dieu demande à son peuple ou les instructions qu'il lui donne pour bien gérer cette création. Malheureusement, il y a ce point 5, ou cette base théologique numéro 5, c'est que la chute a introduit une séparation de la création. Et au moment où le péché entre sur la terre, en l'homme, eh bien on voit que Dieu met une malédiction sur le serpent, met une malédiction par rapport à l'homme et à la femme sur leur manière d'être en relation les uns avec les autres, et une malédiction sur la terre où il est dit que l'homme devra cultiver la terre et que ça sera très difficile. Enfin, il y aura en tout cas un aspect qui est difficile, et on voit qu'il y a comme une séparation aussi là qui est donnée, malheureusement, entre l'homme et la création. Et les êtres humains se sont trouvés à ce moment-là, par cet épisode de Genèse 3, séparés ou aliénés de Dieu, mais aussi des uns des autres et du reste de la création. Et les dégâts que ces relations brisées ont amenés à la vie humaine et au monde naturel sont énormes. Et je crois que là, je n'ai pas besoin de donner trop d'exemples, on en connaît assez. Mais heureusement, il y a encore une autre base théologique, la sixième, c'est que le plan de salut de Dieu inclut la restauration de la création. Le plan de salut de Dieu est pour nous tous, pour que nous soyons sauvés par Jésus-Christ et pour que nos relations soient restaurées, et aussi pour que la création soit restaurée. Et notamment, il y a ce texte important de Romains 8 qui dit que la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Ça fait référence à la chute. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Alors, un texte peut-être un peu compliqué, mais ce qui signifie que Dieu a une espérance ou donne une espérance à la création, et que comme nous tous serons réunis en Christ, ressuscités en Christ, la création aussi sera libérée des conséquences du péché et pourra à nouveau être paradisiaque, si on veut bien. Tu peux montrer le slide suivant, je crois. Donc, il y a ces six bases théologiques qui nous aident à comprendre notre lien à la création ou l'intention de Dieu pour chacun d'entre nous, pour chaque génération. C'était pour ceux qui nous ont précédés, c'est pour ceux qui viendront après nous. Dieu aime toute la création. La création révèle Dieu. L'être humain est une partie inséparable de la création de Dieu. L'être humain a reçu un rôle particulier et une responsabilité. La chute a introduit une séparation de la création et le plan de salut de Dieu inclut la restauration de la création. Ou pour le résumer autrement, je pourrais dire ainsi, Dieu aime la création et s'en sert pour se révéler. Il nous a créés comme une partie inséparable de la création en nous donnant un rôle spécial au sein de cette création. Nous avons abusé de ce rôle et abîmé la création de Dieu, mais dans son plan de salut, il restaurera la création avec nous et nous restaurera dans notre juste place au sein de la création. Alors maintenant, revenons à ces deux textes de la Genèse. C'est le slide suivant, s'il te plaît. L'être humain, l'homme et la femme, ont été appelés à cette place particulière. Elles ont reçu ce mandat ou cette tâche de modeler la nature du Créateur. Et Genèse 1:28 dit donc ceci. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Alors « Soyez féconds et multipliez-vous » sont des commandements donnés à toutes les créatures, mais les deux suivants, « Rendez-vous en maître et dominez » n'ont été donnés qu'à l'homme. Que faisons-nous de ces deux termes ? Parce que c'est des termes forts. Et lorsqu'on prend la signification du terme en hébreu, on voit que c'est très fort. Le premier terme, rendez-vous en maître, veut dire, enfin, il transmet l'image d'un conquérant qui met le pied sur la nuque de celui qui est conquis. C'est clair. Le deuxième verbe, qui est traduit par dominer, vient d'un mot qui signifie piétiner, fouler aux pieds, bafouer, ou dans le sens d'appuyer. Ainsi, il ne fait aucun doute que les êtres humains sont placés au-dessus du reste de la création. Ce verset exprime la supériorité dans des termes les plus explicites. Alors, si on s'arrête là, eh bien, on va dominer la terre et on va l'exploiter. Et malheureusement, c'est souvent ce qui s'est passé. On s'est un peu arrêté là, même aussi parfois dans l'Église. Mais tout texte de la Bible doit être pris avec son contexte ou avec le reste de la parole de Dieu et comprendre comment la pensée de Dieu s'articule pour ce lien à la création. Et c'est pour ça que c'est super important de prendre l'autre texte. Je ne sais pas si ça va, vous m'entendez bien ? Oui, bon. L'autre texte de Genèse 2:15 qui dit « L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden » pour cultiver et garder le jardin. Et là, on a deux autres termes qui s'ajoutent à ceux du premier récit, cultiver et garder. Et là, on est en train de voir la notion que notre mandat d'intendance est en train de prendre. Nous avons cette responsabilité de prendre soin de la terre. Nous avons cette responsabilité. Et puis, ces deux termes, servir ou cultiver, disons le terme cultiver, on peut le traduire par servir. Le terme en hébreu, la première signification, en fait, est servir. Et puis, en général, il est traduit comme cultiver, travailler ou servir. Donc, prendre soin. Et puis, garder, le deuxième terme, garder, c'est observer, surveiller, faire attention, préserver. Donc, ce qui est à retenir, c'est ceci. Ces deux verbes décrivent des actions qui ne sont pas à comprendre, premièrement, dans le but de satisfaire nos propres besoins, mais par contre de s'occuper de l'objet de l'action, c'est-à-dire de s'occuper de la création. Donc la manière de cultiver la terre dont Genèse nous parle, c'est à vivre une attitude de service à la terre et à la création. C'est de garder ce jardin qui n'est pas juste pour le confort de l'être humain, mais aussi simplement dans le sens de préserver la création, de la garder belle pour qu'elle continue de rendre gloire à Dieu. Donc ce jardin ou la terre nous est confié, pas pour être simplement à notre disposition, mais nous ne sommes pas les maîtres absolus, mais plutôt les intendants ou les administrateurs. Donc en prenant ensemble ces deux textes, nous pouvons dire que l'être humain a reçu la capacité et la responsabilité de Dieu de gérer la création et de le faire dans un esprit de service et de préservation envers les animaux, les arbres, envers toute la terre. Il n'y a aucun doute que l'être humain a été placé en tant que maître sur la création, en tant qu'intendant. Mais c'est le concept de maîtrise ou d'intendance qui doit être clarifié, ce que le texte de Genèse 2 fait pour nous. Malheureusement encore, trop souvent, notre histoire humaine montre qu'en regard de la création, on a souvent exercé cette supériorité pour exploiter. Et puis on est en train d'en mesurer un certain nombre de dégâts, même très graves. Donc si tu peux remettre les deux slides avant, en résumé, le slide noir s'il te plaît. Voilà. En résumé, en devenir maître et dominer la terre, cultiver et garder le jardin sont des termes qui déterminent notre rôle en tant qu'intendant de la création. Il ne s'agit donc pas d'exploiter, mais d'être au service. Et cette attitude va démontrer que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes disciples de Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bien cultiver la terre et en prendre soin sans être dans un rapport à Christ, qui est celui d'être fils et fille de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas fils de Dieu et ne peuvent pas prendre soin de la terre. Mais il y aura une compréhension beaucoup plus profonde et beaucoup plus intentionnelle lorsque on peut faire ce lien entre être aimé de Dieu, être fils et fille de Dieu et prendre soin de la création qui nous entoure. Et c'est notre responsabilité, à nous tous ici. À nous tous en tant que communauté, et à nous tous en tant que communauté, comme nation, ou finalement sur le monde entier. Et c'est important de capter cela. Pendant trop longtemps, l'Église a eu de la peine à le capter. Je crois que maintenant, on est obligé d'encore mieux le saisir et le comprendre. Et pas juste dire, oh, mais la terre, elle sera détruite à la fin, donc tant pis. C'est ce qu'on m'a trop souvent dit. Non. Dieu a donné la terre pour qu'on en prenne soin. Comment ça va se transformer? Comment la terre va participer à la résurrection? Comment elle sera restaurée? Ça, je ne peux pas l'expliquer, je le laisse à Dieu. Mais la mission que j'ai reçue, ou le mandat créationnel qui est donné à tout être humain au début de la Bible, c'est de prendre soin de la terre. Et ce mandat est encore, embelli, si je peux dire ainsi, par la révélation de Christ dans nos vies et qui nous aide à comprendre le cœur du Père encore davantage pour prendre soin de toute la création. Vous me suivez ? Quelques mots encore, je ne vais pas être très long, tu peux aller plus loin s'il te plaît. Que pouvons-nous faire ou comment réagir ou comment agir? Alors bien sûr, il y a un million de conseils et d'exemples que je pourrais donner, que vous avez déjà lus, entendus et réentendus. Prenons à cœur, là, dans les sphères qui sont en notre pouvoir, de pouvoir agir pour le bien de la création. Sur ce premier slide, j'ai mis « La foi nous engage dans le chemin de l'intendance de la terre en faveur de la création. » Je ne peux pas être chrétien et ne pas prendre soin de la terre, c'est ça que ça veut dire. Alors voilà, une fois que ça c'est dit, on réalise que ça pose plein de questions sur notre quotidien, sur notre manière d'appréhender le monde. Et puis on réalise de toute façon, il y a plein de situations dans lesquelles on a de la peine à prendre soin de la terre. Mais demandons à Dieu sa grâce pour poursuivre et rechercher sa pensée. Et parfois, c'est même par rapport à des votations en Suisse. Comment est-ce qu'on vote en lien avec la nature? Nous avons vraiment besoin d'une grâce de Dieu, de l'écouter et d'avancer avec foi, même au milieu de plein de choses qui nous échappent et que nous ne comprenons pas parfois. Mais savoir que Dieu a une espérance pour nous et pour la planète. Le deuxième point, j'ai mis « renoncer au système de pensée du monde ». Voilà, là aussi, on pourrait beaucoup le développer, mais nous sommes dans une pensée, en tout cas dans notre monde occidental, que la croissance illimitée semble être ce vers quoi on continue depuis longtemps et il semble poursuivre. Bien sûr, ce concept-là est remis beaucoup en question, mais il faut réaliser que notre mode de vie est quand même pas mal marqué par cette dimension qu'il y a une croissance illimitée possible sur la Terre. Et puis, peut-être tout à coup, là, depuis cet été, on se dit « Ah non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas autant de ressources que ce qu'on croyait. » Donc, on fait face à une réalité, mais à une réalité qui est déjà donnée dans la Bible. La Bible ne dit pas que la Terre est une croissance, peut être utilisée sous le système de pensée de la croissance illimitée. Donc, réfléchissons et exerçons notre discernement en tant que fils et filles de Dieu. Le slide suivant, alors, initiative, j'arrive pas à lire là, personnelle, merci, et puis celui d'après, c'est initiative communautaire. Je crois que nous devons nous encourager les uns et les autres à grandir et à prendre des initiatives pour prendre soin de la création. Et il y en a déjà eu plusieurs dans la communauté, que ce soit... le jardin qui a été cultivé certaines années aussi avec les différents groupes de l'enfance, ça c'est une initiative communautaire. Quand je suis arrivé dans cette paroisse il y a 4 ans et que nous avions des agapes, il y a une famille qui venait avec ses couverts et ses assiettes. Puis c'était pas très bien compris de beaucoup d'entre nous. À la dernière agape, il y avait 80% des familles qui sont venues avec les assiettes et les couverts. Waouh, ça change. On progresse. Continuons. C'est des tout petits gestes, mais qui peuvent aider et nous faire réfléchir aussi après, chacun chez nous. En tant qu'initiative communautaire, il y a ce groupe qui s'appelle Éco-Église, et merci à ce groupe d'exister et de nous stimuler aussi dans notre manière d'être en tant que chrétien, et dans notre rapport à la création. Il y aura d'autres initiatives qui seront apportées à différents moments. Mais je voulais poser ces bases pour nous dire « c'est sérieux ». C'est sérieux parce que Dieu le donne depuis le début de la Bible. Malheureusement, on a eu de la peine, ou parfois on a de la peine à tout saisir, parce que Dieu est tellement vaste. Et nous entrons et nous progressons. Et nous pouvons comprendre que si je prends soin de la création aujourd'hui, ce n'est pas juste parce que j'ai peur, ou parce qu'on me dit 15 fois par jour que je dois faire attention, mais c'est d'abord parce que Dieu m'aime. Elle me donne comme mandat, à moi en tant que chrétien, au peuple de la terre, de prendre soin de la terre. Et ça change toute la perspective. Et ça nous permet d'aller avec espérance et de prendre des pas les uns et les autres et de nous stimuler les uns les autres dans nos réflexions et dans notre manière d'être. Et en faisant ces gestes simples, trier les déchets, je rends gloire à Dieu. Est-ce que vous rendez gloire à Dieu quand vous jetez vos bouteilles au bon endroit ? Oui, il y en a. Je le dis, je ne sais pas si moi je le fais, mais je vais y penser la prochaine fois. Non, mais vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent nous aider à changer et nous aider à grandir et à adorer Dieu à plein de moments dans notre vie. Alors admirons la création, ce que Dieu a fait, admirons les étoiles et prenons-en soin parce que c'est simplement notre mandat. Dieu nous l'a donné. Amen. J'aimerais prier. Écoutons Dieu ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu de l'univers et tu as tout créé. Merci pour la beauté de ta création. Merci parce qu'il y a tant de fois où nous pouvons nous émerveiller de ce que tu as donné. Merci parce que tu nous donnes ce mandat de prendre soin de la création. Seigneur, aide-nous. Accorde-nous de mieux comprendre comment avancer avec ce mandat. Seigneur, nous te demandons pardon parce que si souvent, nous voyons nos limites, où nous n'arrivons pas à prendre soin, où nous détruisons plutôt que construire. Seigneur, pardonne-nous, transforme notre cœur, là encore où nous n'avons pas tout saisi. Transforme notre cœur par ton esprit et éclaire-nous afin que nous puissions marcher avec une nouveauté de vie, avec une espérance pour la création, avec une espérance que toi, tu reviens bientôt et que tu vas nous prendre sur la terre avec toi pour vivre dans cette nouvelle terre et nouvelle création. Seigneur, merci pour cette vision que tu nous donnes et en attendant, aide-nous à marcher en te rendant gloire en tant que fils et filles de Dieu. Amen.